Bien le bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. L'invitée du jour est Mélanie Davranche, géochimiste des eaux et des interfaces au laboratoire Géosciences de Rennes 1. Chercheuse au service de l'environnement, elle essaye avec son équipe d'expliquer le comportement de deux polluants avec la matière organique naturelle. Deux polluants différents, d'une part l'arsenic, à la toxicité bien connue, et d'autre part les terres rares, polluants en devenir. Mais avant de rentrer dans les détails, demandons à notre invité ce qu'est au final la géochimie.
Tout d'abord, donc, la géochimie, telle que moi je la pratique, en fait, c'est la géochimie de surface. Donc ça concerne tout ce qui est interaction entre l'eau et plutôt la surface, donc les sols.
Et sur quel sujet portent vos recherches ?
Alors, à l'heure actuelle, moi je travaille sur ce qui est la mobilité des éléments traces métalliques, des polluants métalliques, voilà. Sur deux grands types d'éléments, les métalloïdes tels que l'arsenic et des métaux. Je travaille sur un groupe particulier qui est le groupe des terres rares.
Alors justement, les terres rares, on entend souvent parler parce qu'ils sont utilisés de plus en plus dans les technologies. Mais au final, qu'est-ce que c'est des terres rares ?
Ah ben, les terres rares, ce sont des éléments chimiques qui ont un poids atomique relativement élevé, qui sont lourdes, hein, voilà, et elles sont naturellement présentes dans les roches. Ce sont des éléments qui sont relativement peu mobiles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme ça, on ne les retrouve pas facilement dans les eaux, elles sont plutôt piégées dans les roches. Seulement, avec justement l'utilisation des terres rares dans les produits de haute technologie, les téléphones, les batteries de voitures, de voitures électriques, hein, tout un tas d'éléments comme ça, eh bien, on les utilise. Donc, on les extrait des roches et du coup, on va les mobiliser dans l'environnement. Donc, elles risquent de se retrouver dans les eaux, dans la chaîne alimentaire et donc de contaminer, en fait, le système, l'environnement.
Et justement, quel est le but de comprendre la dynamique des terres rares dans l'environnement ?
Alors, si on arrive à... Alors, c'est vrai, si on arrive à comprendre en fait les mécanismes qui font que les terres rares sont piégées par le sol, par exemple, donc si elles sont piégées, elles sont immobilisées. Mais souvent, elles sont immobilisées momentanément. Mmh. Si les conditions physico-chimiques changent, elles peuvent se retrouver dans les eaux. Et quand elles se retrouvent dans les eaux, l'eau, c'est très mobile, l'eau entraîne les terres rares. Et du coup, les cibles potentielles que peuvent atteindre les terres rares sont beaucoup plus importantes. Voilà. Donc nous, ce qu'on cherche à comprendre, c'est dans quelles conditions elles sont piégées et dans quelles conditions elles repassent dans l'eau. Si on arrive à comprendre ça, on va pouvoir aussi mettre au point des techniques, soit pour les bloquer, soit pour les extraire, en fait, les remettre dans l'eau et ensuite les extraire pour pourquoi pas les réutiliser.
Quels outils utilisez-vous pour essayer de comprendre cette dynamique ?
Alors déjà, la première chose, ce sont des études de terrain. On fait des études de terrain. Donc, moi, je travaille sur un terrain particulier qui est les zones humides. Donc, les zones humides, en plus, je travaille sur des zones humides particulières qui sont des zones humides de bas-fond de vallée. Donc, en fait, ce sont des zones humides, donc des espaces qui peuvent être saturés ou désaturés en eau en fonction de la période hydrologique. Donc, en période de hautes eaux, le sol de surface est complètement saturé en eau. Et en période de basse eau, le niveau de l'eau chute, de l'oxygène réentre dans le milieu, et le milieu, on dit qu'il est oxygéné, en fait. Et donc, du coup, les réactions chimiques, ou biogéochimiques, parce que les bactéries ont un rôle très important dans ces réactions, eh bien, sont différentes. Donc, quand on a un milieu saturé, le milieu se réduit, on n'a plus d'oxygène, en fait. Et donc, du coup, les phases qui pourraient piéger les terres rares ou les autres métaux sont solubilisées. Et donc, du coup, si elles avaient à leur surface des métaux, eux aussi, solubilisés, veut dire repassent dans l'eau. Hein. Elles deviennent donc mobiles. Au contraire, quand le milieu se réoxygène, quand le niveau d'eau chute, à ce moment-là, eh bien, le fer précipite et peut repiéger des éléments. Donc, du coup, les zones humides, c'est vraiment, comme elles ont des conditions biogéochimiques très contrastées, c'est vraiment un réacteur très intéressant pour étudier justement ces phénomènes de piégeage-libération.
Alors, vous parliez de piégeage par exemple, des terres rares, et oui. Elles sont piégées par quoi ?
Alors, les terres rares, elles peuvent être piégées soit justement par les oxydes de fer, mais également par la matière organique. Donc, une des grosses avancées justement de mes recherches, ça a été démontré que les terres rares avaient beaucoup d'affinités par la matière organique. Or, Dans les zones humides, on a beaucoup de matière organique. Puisqu'on a un milieu qui est saturé en eau, on a une très faible activité biologique. Et toute la matière organique qui est produite, en fait, est mal dégradée. Elle s'accumule et elle est très, très réactive chimiquement. Et elle est capable donc de piéger les terres rares. Et donc, on a montré que dans ces zones humides qui sont stratégiques dans le paysage, puisqu'elles reçoivent toutes les eaux de ruissellement, eh bien, la matière organique contrôlait la dynamique, du coup, des terres rares. Les terres rares, si vous voulez, sont plus maîtres de leur destin. C'est la matière organique qu'ils contrôlent. Quand la matière organique est piégée dans la zone humide, les terres rares le sont avec. Mais quand la matière organique repasse dans la solution, elles entraînent les terres rares avec elles aussi. Elles entraînent les terres rares avec elles.
Et pourquoi ? Quelle est la particularité de la matière organique, en fait ?
Alors, la matière organique, elle a des espèces de petits bras musclés à sa surface. C'est ce qu'on appelle des fonctions de surface, qui sont des fonctions chimiques qui sont capables de complexer, d'attraper, de piéger, en fait, les terres rares.
Les terres rares, c'est un groupe, donc il y en a plusieurs. Et y a-t-il, du coup, une différence
dans
les récepteurs ou les différentes sortes de matière organique ?
Effectivement, sur les terres rares, c'est 14 éléments. J'avais oublié de le dire tout à l'heure. 14 éléments qui ont des propriétés chimiques relativement similaires. Donc l'intérêt de ces éléments, c'est qu'on peut traiter leur concentration ou leur abondance, on parle ici plutôt d'abondance, sous forme de spectre. C'est les seuls éléments chimiques en fait, du tableau de Mendeleïev qu'on peut traiter comme ça, sous forme de spectre. Et le spectre, la forme du spectre est spécifique d'une roche, d'une eau, d'un processus chimique particulier et aussi, justement, d'un site de surface particulier. Voilà. Donc, c'est cette forme de spectre qui nous a permis de savoir que les terres rares étaient complexes à la matière organique et sur quel site de surface, sur quel petit bras musclé en fait, de la matière organique, les terres rares étaient complexées. Et donc, par rapport au type de matière organique, le spectre ne varie pas forcément. Voilà, puisque les fonctions de surface de la matière organique, quelle que soit son origine, sont en gros les mêmes. Par contre, ce qu'on peut réussir à voir, c'est l'abondance des terres rares sur cette matière organique. Est-ce que cette matière organique est capable de complexer beaucoup de terres rares ou pas ? Puisqu'en fonction de la quantité de terres rares sur la matière organique, ce ne sont pas les mêmes sites qui sont activés. Et donc la forme du spectre est différente.
Comment obtient-on ces spectres ? Ça se fait en laboratoire ou
Sur le terrain, on fait des analyses d'eau. Voilà. Donc on prélève de l'eau. Dans cette eau, on a de la matière organique. Alors la matière organique, dans ces eaux-là, est sous forme de colloïdes. Alors voilà, j'explique ce que c'est qu'un colloïde. Un colloïde, c'est une toute petite particule minuscule qui a une taille inférieure à 1 micromètre et qui est tellement petite, tellement légère qu'elle ne peut pas décanter, en fait. Et donc, du coup, elle reste en suspension. Et donc, elle fait partie de la phase dissoute, de la solution. Et donc, on la sépare. On arrive quand même à séparer ces tout petits colloïdes de la solution par un système de filtration avec un très, très, très petit diamètre de pore. Voilà. Et donc, on dose les terres rares dans cette fraction. On sait que c'est la matière organique qui est complexe. Et voilà. Et donc, on arrive à faire le lien matière organique, terres rares.
Et à quoi peuvent bien servir ces spectres ? Comment vous les utilisez ? Quelles sont les interprétations qu'on peut en faire ?
Mais justement, c'est ce que je vous dis. En fait, la matière organique, on savait qu'elle était très complexante. Mais quand on n'a qu'un seul élément, on ne sait pas sur quel site cet élément se complexe. C'est impossible de voir avec un seul élément. On a juste la seule donnée qu'on ait, c'est concentration. Alors que quand on a le spectre des terres rares, eh bien, on voit la forme qui varie, justement, en fonction des sites activés. Et donc, du coup, la forme de ce spectre, ici, nous a permis de savoir quel site était activé.
D'accord.
Et alors là, on est rentré dans des choses qui sont très pointues, mais les terres rares sont utilisées, il faut le savoir, depuis plusieurs décennies, depuis qu'on les dose dans les eaux comme traceurs des roches, comme traceurs aussi des eaux. Grâce à la forme du spectre, on peut savoir quel type d'eau se mélange avec quel type d'eau, par exemple. Dans une rivière, on va pouvoir décomposer le signal terre rare et savoir si l'eau de cette rivière provient de telle ou telle nappe souterraine, par exemple. Voilà, donc elles sont utilisées, cette forme de spectre est très utile. Nous, on la détourne dans les études que l'on fait actuellement pour tracer, en fait, des processus chimiques très fins.
Donc vous en venez à créer des modèles ?
Exactement.
Donc là, c'est une partie qui est plus faite en laboratoire, je suppose ?
Alors oui, parce que alors, dans le système naturel, on observe des choses. On observe que le spectre varie et on voit à peu près quels sont les facteurs. Ici, on a vu que c'était la matière organique qui contrôlait, par exemple. Seulement, le but, après, c'est de pouvoir prédire ce qui se passe dans le milieu naturel. Donc pour ça, on crée des modèles numériques. Alors, ces modèles numériques sont basés tout d'abord sur des expériences de laboratoire. Donc on mélange de la matière organique synthétique avec des terres rares. Voilà, on regarde ce qui se passe en fonction de l'acidité du milieu, en fonction de la quantité de cation présent, en fonction de la température par exemple. Et ça nous fournit tout un tas de données. Et ensuite, on essaie de reproduire ces données à l'aide d'un modèle numérique qui reprend des hypothèses de processus physico-chimiques, de complexation en l'occurrence. Voilà. Et ça nous permet de déterminer des constantes. Et grâce à ces constantes, on peut reproduire ensuite ce qui se passe dans le milieu, quelles que soient les conditions du milieu. Et donc de prédire du coup quels vont être les flux de terres rares qui peuvent être libérés par exemple des zones humides en fonction des conditions physico-chimiques. C'est ça l'intérêt en fait. Le but ultime, c'est de pouvoir prédire la dynamique des terres rares dans le milieu naturel.
Et ainsi permettre d'éviter des pollutions, des contaminations ?
De les prévoir. Après, c'est d'autres chercheurs qui interviennent et qui, grâce aux mécanismes qu'on a pu mettre en évidence, vont mettre au point des méthodes de dépollution, de piégeage, ou de choses comme ça.
On utilise de plus en plus de terres rares, donc du coup, il y a des risques de problèmes de contamination. Mais alors, que sait-on de leur toxicité ?
Voilà, c'est ça. Excusez-moi de vous avoir coupé, mais oui, c'est ça. En fait, on ne sait pas grand-chose de la toxicité des terres rares, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, les terres rares, avant, étaient piégées dans les roches, elles n'étaient pas du tout mobiles, donc elles étaient en très faible concentration dans les eaux. De toute manière, on les dose que depuis 20 à 30 ans, ou 30 ans, je dirais, parce que maintenant, les appareils de mesure sont beaucoup plus fins. Avant, on les dosait même pas dans l'eau.
Donc, du coup, oui, la toxicité, on ne sait pas.
On ne sait pas grand chose pour l'instant. Alors, il y a des études qui montrent quand même que les terres rares ont un impact sur les oursins, en fait. Voilà, une certaine dose, elle tue les oursins. Donc, du coup, on peut imaginer qu'elles peuvent être nocives, évidemment, sur l'être humain. De toute manière, les métaux ou les métalloïdes, à partir d'une certaine concentration, sont plus ou moins tous toxiques, quoi. Voilà. Et comme les concentrations terres rares ont tendance à augmenter dans les eaux, a priori... Mais donc du coup, ça c'est un domaine de recherche qui va falloir développer dans les années à venir. Voilà.
Oui, qui suit forcément le progrès technologique. Exactement. Et donc l'utilisation des terres rares.
Voilà, c'est ça. This is the first thing out of your mouth, the first thing they're going to hear from you. And it's got to be strong. It's got to make the audience say, hey! You've got to start your introduction off with a bang! In 95 my father was still alive. Hip hop hit my heart and I started to feel the vibe. I'd listen to Nas, spit rhymes too damn correct. I can't forget my donkey style and my Wu-Tang cassette. See, I was only 10, holding the pen, hoping to find schemes, rhyming over and over again. At 13 I had a crew, we flowing hand out, and that's how I started rapping with the homie Bang Pow. He went his way and I went mine. He switched to turntablism, I perfected my rhyme. A decade later we met again and said what up. We got to get together from tear the stage the fuck up. About enterprise and a dough making, but we wanna say thanks to you folks for donating. Peace to all the reviews and dope ratings. For those that bend their skull to this till they don't ache in. Thanks to y'all, we gon' keep feasting off MC and we gon' keep performing, beat making, feasting for a reason. Peace to all you people, Eastern European, Swedish or Norwegian, Aussie, Asian, even North Korean. France, Germany, US and the UK, Africa, Mexico, and even kiss from Uruguay. Chill out and bump this, cause this is a new day. And haters, we couldn't give a shit about what you say. Oh boy, he's getting so
On vient de s'écouter Chill Bump avec The Eponym. Vous êtes toujours sur Radio Campus Rennes pour la seconde partie du Labomatique en présence de Mélanie Davranche, géochimiste au sein du laboratoire géosciences de Rennes. Dans la première partie, nous avons évoqué un de ses axes de recherche, les terres rares, et leurs interactions dans l'environnement avec la matière organique. On s'attaque maintenant au deuxième axe qui concerne la dynamique de l'arsenic dans l'environnement, élément dont la toxicité est-elle bien connue.
Alors l'arsenic est un poison, donc vous connaissez tous l'histoire de Marie Bénard, hein, par exemple, qui a empoisonné son mari, enfin on suppose qu'elle a empoisonné son mari à l'arsenic. Donc c'est un poison, il provoque divers cancers de la peau, des poumons, de la vessie, et notamment une maladie qui est très spectaculaire, c'est la Blackfoot disease, la maladie des pieds noirs en fait, où on a des nécroses de la peau et les pieds deviennent tout noirs. Donc c'est vraiment très toxique. Et l'arsenic est présent naturellement dans les roches, hein, et naturellement dans les eaux. Seulement dans certaines parties du monde, il peut atteindre des concentrations très importantes, hein, de l'ordre de 100 mg par litre, ce qui est énorme. Hein. Quand on sait que la norme guide, la limite acceptable d'arsenic dans les eaux pour la potabiliser, c'est 10 microgrammes par litre. Donc voilà. Donc dans le sud-est asiatique, on atteint facilement les 100 mg, ce qui est énorme.
Justement, d'où vient-il cet arsenic ?
Alors.
Parce qu'on vous avait dit qu'il était présent en Bangladesh, Sud-Asie, ces pays-là.
Oui.
Mais d'où provient-il ?
Alors, l'arsenic est présent naturellement dans les roches, hein, sous forme de sulfure notamment, et donc dans les sédiments, par exemple, de nappes. Voilà. Ce qui se passe, c'est que cet arsenic, quand le milieu s'oxyde, il est libéré. En règle générale, comme il s'oxyde, comme dans les sulfures, il y a aussi du fer, le fer reprécipite sous forme d'oxyde et il le piège. Donc jusque-là, on n'a pas de souci. Soit on a de l'arsenic sous forme sulfure dans les milieux réduits, soit on a de l'arsenic piégé par des oxydes de fer dans des milieux plus oxydés.
Et là, il n'est pas toxique ?
Il est piégé, en fait. Il est piégé, il est sur des solides. Et si, tant que ces solides ne sont pas mobilisés, il n'y a pas de souci. C'est un peu comme la problématique des terres rares. Hein. Tant qu'ils sont piégés dans les roches, ils ne sont pas mobiles, ils ne sont pas toxiques. Seulement, dans le sud-est asiatique, pour pouvoir nourrir la population, on a eu une intensification de l'agriculture, et avec l'intensification de l'agriculture, une intensification de l'irrigation. Donc l'irrigation, ça consiste, hein, à faire ruisser de l'eau sur les sols. Et le problème, c'est que le ruissellement des eaux sur les sols, ça entraîne un déstockage du carbone des sols, donc de la matière organique des sols. Cette matière organique est entraînée par des flux descendants jusque dans les nappes. Donc dans les nappes, on a des entrées, du coup, maintenant, de matière organique. Donc on se retrouve avec des sédiments riches en oxyde de fer et en arsenic, immobiles, et de la matière organique. Et là, à ce moment-là, va intervenir un troisième élément, que sont les bactéries, notamment les bactéries hétérotrophes. Donc ces bactéries, qui sont présentes dans les eaux, vont utiliser la matière organique pour croître, pour produire leurs propres cellules. Hein, et voilà. Et en utilisant la matière organique, eh bien, elles vont libérer des électrons. Les électrons ne se baladent pas comme ça dans le milieu naturel. Il faut qu'ils soient acceptés par ce qu'on appelle un accepteur d'électrons. Et donc, les oxydes de fer sont des accepteurs d'électrons. Seulement, quand ces oxydes de fer acceptent les électrons, ils sont réduits, ils sont dissous. Et vous imaginez bien que lorsque les oxydes de fer sont dissous, à ce moment-là, l'arsenic qui était piégé se retrouve dans l'eau. Il est libéré et il devient très contaminant. Il est solubilisé dans la solution. Alors, si la matière organique libère un électron, c'est parce que la matière organique est réduite. Mmh. Voilà, hein, c'est pour ça. Et les oxydes de fer sont oxydés.
D'accord.
Donc, on a toujours un échange. Ce sont des réactions d'oxydoréduction. Voilà.
Et du coup, l'arsenic qui se retrouve dans les nappes souterraines se retrouve dans les eaux
Eh bien, en fait, une fois qu'il se retrouve dans les nappes souterraines, il se retrouve dans les eaux de pompage. Hein,
voilà.
Parce que ces nappes souterraines sont utilisées directement pour la boisson par les populations. Donc, il est ingéré directement.
Donc en fait, cette contamination est liée quand même à l'activité humaine.
Est liée à l'activité humaine, parce que pendant des millions d'années, ou des milliers d'années, peut-être pas millions, mais milliers d'années, l'arsenic était resté piégé, hein, sur les oxydes de fer présents dans les aquifères.
Oui, là aussi, vous essayez de comprendre comment l'arsenic contamine les eaux souterraines, et là encore, via les matières organiques.
Je vais expliquer du coup, via les matières organiques. Alors là, dans ce cas-là, on considère la matière organique uniquement comme une source de carbone pour les bactéries. Voilà. Ça, c'est un phénomène qui est tout à fait compris dans les nappes du sud-est asiatique, notamment au Bangladesh. Seulement, dans certaines autres nappes, comme des nappes au Vietnam, on a très peu d'oxyde de fer et très peu d'arsenic dans les sédiments des nappes. Voilà.
Donc, on ne sait pas d'où il vient.
On sait. On a une hypothèse. En fait, il semblerait que l'érosion de l'Himalaya produise des oxydes de fer riches en arsenic. Ces oxydes de fer, qui sont donc lessivés des montagnes, se retrouvent dans les grands fleuves, notamment dans le Mékong. Et lorsque le Mékong est en crue, il dépose ces oxydes de fer riches en arsenic dans les plaines d'inondations et les zones humides qui bordent le Mékong. Là, on se retrouve dans notre formidable bioréacteur que sont les zones humides. On a des conditions de réduction, on a de la matière organique, on a des oxydes de fer, de l'arsenic. Et donc, du coup, on a nos bactéries qui utilisent la matière organique des zones humides pour réduire les oxydes de fer, les dissoudre, et on a arsenic qui est libéré. Seulement dans ces zones humides, on a aussi cette matière organique qui est très complexante, dont je vous parlais tout à l'heure quand on parlait des terres. Et on se pose la question de savoir, est-ce que cette matière organique pourrait repiéger l'arsenic et l'empêcher, en fait, de le stocker dans les zones humides ? Parce que la suite de l'hypothèse, puisque je n'ai pas été au bout de mon raisonnement, c'est que si l'arsenic est libéré dans ces zones humides, il transite ensuite jusqu'aux nappes et les contamine.
D'accord.
Mais moi, je travaille sur, est-ce que réellement cet arsenic est capable de transiter jusqu'aux nappes ? Est-ce que cette matière organique des zones humides, qui est très complexante, ne peut pas le retenir ? Le contenir dans les zones humides.
Voilà. Et donc après, ce serait un moyen de endiguer cette contamination à l'arsenic ?
On sait traiter une eau contaminée par l'arsenic. Hein. Mmh. Il suffit de faire transiter cette eau à travers un filtre d'oxyde de fer. Voilà. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que les oxydes de fer étaient des pièges à arsenic. Et d'ailleurs, ce sont ce genre de filtres qu'on utilise en France. Parce que dans le Limousin, par exemple, on a des eaux qui contiennent de l'arsenic. Mais pas à 100 mg par litre. Le problème du Bangladesh, c'est que les concentrations sont énormes. Et donc, ce qu'il faut, c'est résoudre le problème à la base et non pas traiter l'eau. Parce que là, il faudrait des filtres de dimension, mais... Voilà. Et ça a un coût. Un coût qu'on peut certainement assumer en Europe, mais qu'on ne peut pas assumer dans
les pays qui sont en développement. Ouais.
Voilà, c'est ça.
Et là aussi, vous travaillez à la fois sur le terrain et en laboratoire ?
Alors, pour le coup, je travaille très peu sur le terrain, puisqu'on n'est pas encore allé au Vietnam. Hein. Et nous, on fait beaucoup en fait, d'expériences au laboratoire. Voilà. Donc, on mélange l'arsenic de la matière organique, de l'arsenic de la matière organique et du fer, par exemple. Mais on travaille également un peu sur le terrain en Bretagne. Voilà.
C'est moins exotique.
C'est moins exotique, mais il faut quand même qu'on ait un retour sur le terrain pour voir exactement ce qui se passe. Parce que nous, on fait réagir les composants dont on sait qu'ils existent. Mais du coup, sur le terrain, on a aussi en plus l'impact de la température, l'impact des flux, l'impact des autres cations, enfin des autres éléments présents dans la solution, qu'on n'a pas forcément en fait en totalité quand on fait une expérience. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut. On veut simplifier le système pour pouvoir étudier les mécanismes. Donc, il nous faut quand même un retour sur le terrain. Donc on travaille sur des zones humides bretonnes qui sont pas dans lesquelles il y a de l'arsenic mais pas des concentrations aussi importantes que dans le sud-est asiatique évidemment. Et puis ça nous permet de tester aussi des systèmes expérimentaux qu'on directement sur le terrain. Voilà. Par exemple dans ces zones humides, nous on insère directement des oxydes de fer dopés en arsenic dans les sols de zones humides pour voir ce qui se passe. À quelle vitesse ils sont dissous, est-ce qu'ils peuvent reprécipiter sous forme de minéraux secondaires, quelle quantité d'arsenic ils vont libérer. Et donc ça, pour nous, c'était un vrai challenge. Parce que les oxydes de fer, c'est de la poudre. Et comment faire pour insérer de la poudre dans un sol et pouvoir le récupérer après? Parce que ce qui nous intéressait, c'est de le récupérer justement après. Donc, on a fait marcher nos petites neurones, là, et puis on a mis au point un système très simple de plaques polymères, de l'acrylique, striées en surface, donc la surface est un peu abrasée, et on colle à sa surface des oxydes de fer. On insère ces plaques directement dans le sol, on les fait réagir avec le sol en période de hautes eaux, en période de basses eaux, et on fait des prélèvements au cours du temps. Et donc, du coup, on récupère les oxydes de fer qui ont été dissous, ce qui a pu reprécipiter, et toutes les colonies bactériennes qui sont associées au processus de dissolution des oxydes de fer, de libération de l'arsenic, voilà.
Vous devez aussi identifier ces bactéries ?
Oui.
Et suivant le groupe, vous n'en faites pas la même interprétation ?
En fait, alors c'est pas nous qui faisons directement les analyses microbiologiques. Hein. On travaille en collaboration avec des gens de l'université de Pau, de l'EM. Voilà, et ce sont eux qui font les analyses génomiques. Donc, ils ont montré qu'on avait une succession, en fait, de colonies bactériennes en fonction du temps et en fonction de l'avancée des réactions géochimiques qui se produisaient dans le milieu. En fait, c'est pas une seule souche bactérienne qui permet la réduction des oxydes de fer. Dans les zones humides, on a tout d'abord des bactéries qui utilisent la matière organique et qui produisent de l'acétate. L'acétate est la source de carbone, en fait, des bactéries qui réduisent le fer. Voilà. Donc, elles utilisent ces bactéries, c'est les géobactères, utilisent l'acétate, réduisent les oxydes de fer, qui libèrent l'arsenic. L'arsenic, ensuite, va être lui également transformé. Parce que l'arsenic, on a deux formes d'arsenic. L'arsenic 5 voilà, et l'arsenic 3. L'arsenic 5 est moins toxique que l'arsenic 3. Voilà. Dans les zones humides, dans les nappes, c'est d'ailleurs l'arsenic 3 qui est en plus forte concentration. Donc nous, on a dopé nos oxydes de fer, on les a contaminés en arsenic 5, pour voir justement quelle quantité pouvait être transformée en arsenic 3 dans ces milieux-là. Et donc on s'est rendu compte que cet arsenic 5 libéré par dissolution des oxydes de fer était capable d'entrer dans les cellules des bactéries. Enfin, c'est pas nous, hein. C'était déjà montré dans les littératures. Et donc cet arsenic 5 rentre dans les bactéries, et les bactéries ont une pompe à arsenic, mais arsenic 3 dans leur membrane, qui leur permet d'éjecter l'arsenic que sous forme 3. Donc les bactéries transforment l'arsenic 5 en arsenic 3 pour pouvoir l'éjecter hors de leur membrane. Et donc dans la solution, on a apparition ensuite d'arsenic 3. Donc vous voyez vraiment, la géochimie est extrêmement liée à la microbiologie dans les zones humides.
Sur l'arsenic,
oui.
Quelles sont vos conclusions au niveau de la dynamique de l'arsenic ?
Ben pour l'instant, on a montré que dans les zones humides, la présence de matière organique justement avait tendance à augmenter la mobilité de l'arsenic. On a montré que la matière organique ne complexait directement très très peu l'arsenic. Seulement, elle est capable de le piéger malgré tout via le fer.
D'accord.
Voilà. Parce que la matière organique se complexe au fer et le fer complexe l'arsenic. Et donc du coup, ça fait des grosses particules dont on pense qu'elles pourraient être conservées dans les zones humides. Voilà. Ensuite, en milieu oxydant, puisque l'histoire n'est pas finie, quand l'eau, en fait, le niveau d'eau chute, quand l'oxygène se réintroduit dans le milieu, à ce moment-là, on a des phénomènes de précipitation de solides. On a des solides qui se forment. Voilà. Et donc du coup, ces solides, ça c'est une partie très intéressante dont des résultats assez nouveaux, sont capables de concentrer l'arsenic. Voilà. On a des solides là qui, dans une zone humide de Bretagne, a été capable, en 4 ans, de réoxydation, de concentrer l'arsenic à des concentrations de 250 mg par microgramme par gramme, puisque là on parle de solides, microgramme par gramme, ppm quoi. C'est énorme.
Et ces solides, ils sont sous quelle forme ?
C'est de la matière organique, des oxydes de fer, cette fois-ci sous forme oxydée, et de l'arsenic. Voilà. Et donc, on a pu observer la distribution élémentaire, donc la distribution des différents éléments chimiques sur ces solides. On appelle ça solide puisqu'on ne les a pas encore caractérisés. Et on voit qu'on a des spots, on appelle ça des spots, très très enrichis en arsenic et en matière organique. Voilà. Donc, on a de l'arsenic réparti avec le fer de façon uniforme dans ces solides, et on a aussi ces spots très enrichis. Et on essaie de savoir ce que c'est, en fait. Est-ce que l'arsenic est à cet endroit-là plus concentré parce qu'on a une matière organique différente ? Parce qu'on a un liant entre la matière organique et l'arsenic ? Voilà. Et donc là, du coup, il va falloir faire des analyses beaucoup plus fines de spectroscopie. Et donc, va falloir utiliser le rayonnement synchrotron, donc l'accélérateur de particules. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y en a un à Grenoble et à Paris, puis il y en a d'autres dans le monde, pour pouvoir vraiment voir quelles sont les relations interatomiques. Donc là, maintenant, on n'est plus à l'échelle de l'élément, mais on est à l'échelle de l'atome. Savoir si l'arsenic est lié à un oxygène, à un soufre, voilà, pour pouvoir savoir ce qui se passe dans ces associations. On fait de la recherche fondamentale, là. C'est du fondamental, mais c'est à but, c'est pour mettre en évidence des mécanismes qui peuvent réutiliser ensuite en recherche appliquée, pour mettre au point des méthodes de dépollution et de décontamination des eaux et des sols.
Ce sera c'est l'étape d'après, important. En fait.
Ouais, voilà. Donc ça, c'est pas nous qui allons le faire. C'est un autre type de recherche qui le fait, hein, d'autres acteurs, mais tous ces résultats, tous ces mécanismes qu'on met en évidence sont publiés et sont accessibles justement à des opérateurs plus de terrain hein, qui reprennent ça pour mettre au point des méthodes de dépollution et de décontamination. C'est ça en fait le but ultime.
Mais ça a déjà commencé ?
Ben pour l'arsenic, par exemple, les gens qui ont montré que les oxydes de fer avaient beaucoup d'affinité pour l'arsenic et étaient capables de le complexer hein, et de quantifier cette complexation, ça a été réutilisé ensuite par les acteurs de terrain pour mettre au point les filtres piégeurs d'oxyde de fer, par exemple. Après, pour la contamination des nappes souterraines et la résolution du problème, on en est quand même encore loin. Parce que les concentrations sont énormes. Après, pour les terres rares, c'est une démarche qui est complètement différente parce qu'on étudie des métaux dont on ne connaît pas encore la toxicité, mais voilà, dont on ne sait pas les taux qu'ils vont pouvoir atteindre dans le milieu. Donc c'est la première fois, en fait, que quelque chose est fait de cette façon-là. D'habitude, c'est toujours le contraire. On se rend compte que le sol est pollué par des métaux comme le cadmium, le plomb, et on travaille sur les mécanismes. Là, c'est vraiment une démarche qui est totalement différente. En fait, on travaille avant les problèmes, on essaie de mettre en évidence des mécanismes de mobilisation ou de piégeage avant de savoir si les éléments vont être vraiment en forte concentration dans le milieu et sont potentiellement toxiques.
C'est de la prévention, en fait.
C'est presque de la prévention. Donc là, ouais, c'est une démarche totalement différente. Et les terres rares n'étaient pas considérées du tout comme toxiques. Hein. On ne prenait pas d'ailleurs de précautions particulières au labo avant hein, parce que les concentrations étaient tellement faibles quand on travaillait que sur le milieu naturel. Et c'était des traceurs, voilà, c'était des traceurs uniquement. On ne travaillait même pas sur la raison pour laquelle les spectres avaient ces formes-là. On savait qu'ils avaient cette forme-là parce qu'ils étaient issus de la dissolution de telle roche, par exemple. Et c'est très récemment qu'on a mis en évidence que la forme du spectre changeait en fonction du pH, de la force ionique, de la température, de tout un tas de choses comme ça.
Et c'est lié à l'utilisation croissante de ces terres rares dans l'industrie ?
C'est lié à l'étude justement de zones particulières comme les zones humides, où on a montré qu'en haut du bassin versant, là où le milieu est pas, y a pas très peu de matière organique, on n'a pas la forme de spectre. Quand on va du bassin versant, où le milieu est saturé, on a beaucoup de matière organique. Ce qui n'était pas logique, puisqu'on pensait que c'était la même nappe. Et donc à partir de ça, on s'est rendu compte, non, en fait, les conditions redox ont un impact, la matière organique a un impact, et elle est capable de modifier la forme du spectre. Et à partir de là, on a mis au point les mécanismes qui contrôlaient la dynamique des terres rares. Et ça sera réutilisé, ou pas, j'espère, plus tard, si on a des problèmes de toxicité et de forte concentration.
Le Labomatique, c'est fini pour cette fois. Vous pouvez néanmoins retrouver d'autres informations sur les travaux de Mélanie Davranche ainsi que le podcast de l'émission sur radiocampusrennes.fr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, soyez curieux.